Sur son toit, 5.
Protéger la santé face au changement climatique, c'était le thème hein, de la journée mondiale de la santé, journée qui a été célébrée hier le 7 avril. Il faut savoir que l'OMS a choisi ce thème pour sensibiliser la population, lui faire comprendre les conséquences sanitaires du changement climatique. Car ces derniers temps, vous l'avez peut-être remarqué, plusieurs maladies sont liées au changement climatique. La question que bon nombre d'entre vous se posent, c'est de savoir comment se protéger pour faire face au changement climatique. Nous allons parler avec des invités, nous aurons dans un instant le docteur Chamalal qui va nous rejoindre dans cette émission. Nous aurons également ici dans ce studio un climatologue qui sera là pour nous expliquer un peu les changements climatiques. Il s'appelle Mbui Pita, il est bien placé hein, pour répondre déjà à vos questions si vous réagissez au 081 890 63 94. Alors avec Arlette Mbui, on va en parler puisqu'elle a été sur le terrain, elle a eu le temps de se renseigner. Arlette, pour commencer, pourquoi l'OMS a-t-elle choisi ce thème?
En fait, Nicole, c'est pour permettre à la communauté internationale de mieux se préparer à faire face aux problèmes de santé liés au climat. Cette collaboration doit s'exprimer par des mesures consistantes, notamment à surveiller et à combattre plus activement les maladies infectieuses, à mieux gérer des ressources en eau toujours plus limitées et à coordonner les interventions sanitaires en situation d'urgence.
Mais est-ce que la population congolaise a une idée sur le changement climatique et les maladies que celui-ci peut provoquer?
Oui, bien sûr que la majorité les savent, mais pour certains, notre pays est pollué par beaucoup de choses. Écoutez ici les avis de la population.
Nous avons un climat qui est une température qui est une température qui est une température C'est normal, il faut nous trouver un changement, il faut nous en fièvre.
C'est pas possible que ça, la fièvre, la maman là des bébés.
Nous devons conseiller à nos femmes qui restent encore à la maison que devaient d'abord suivre les enfants, parce que nous traversons maintenant une période qui est un peu difficile, parce que les enfants sont en train de prendre un peu les maladies donc oisement comme ça quand ils sont en train de jouer. Et la nuit, vous allez voir l'enfant tombe malade. Et est-ce que notre État vraiment ne sensibilise pas ces citoyens, ces peuples pour nous dire non, il y a changement de climat, il y a la pollution, on ne connaît pas ça.
C'est vrai qu'avec tous ces changements de température, les enfants tombent régulièrement malades. Hein. On a des cas de bronchopulmonaires. Alors, en cas d'un changement, que va-t-il se passer par rapport au thème exploité cette année? On nous rappelle encore le thème « Protéger la santé face au changement climatique ». Quelles sont les mesures préventives?
Oui, selon certains observateurs climatologues, il faut s'attendre à un réchauffement progressif de la planète. Cependant, les effets des phénomènes climatiques extrêmes pourraient donc augmenter le nombre d'intempéries, d'inondations, de sécheresses et de canicules. Tout ceci sera brutal et durement ressenti. Ces deux évolutions peuvent avoir des répercussions sur les éléments aussi fondamentaux pour la santé que l'air, l'eau, les denrées alimentaires, les logements, pour ne citer que cela, Nicole.
Alors, est-ce que vous avez le temps de vérifier les maladies que peuvent causer ce réchauffement climatique?
Selon le docteur Mietala, qui est secrétaire général à la santé, ce sont plutôt des vecteurs de maladies qui deviennent plus nombreux par rapport au changement du climat. Et toute maladie transmissible et infectieuse peuvent connaître une augmentation remarquable, suivant ses explications.
Vous avez déjà entendu parler de la canicule, c'est-à-dire quand la température devient très élevée, il fait très chaud, les personnes vulnérables, c'est-à-dire les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées, ne pourront pas supporter cette chaleur. Ceux-là peuvent même mourir directement du fait de la chaleur, donc quand il y a une canicule. Mais pour les autres qui ont un peu plus de résistance, ce qu'on pourrait observer, c'est le fait que les vecteurs des maladies vont devenir beaucoup plus nombreux. Et donc la possibilité d'attraper des maladies qui sont transmises par des vecteurs va devenir beaucoup plus élevée. Et vous savez ici que la plupart de nos maladies, que ce soit la malaria, que ce soit un certain nombre de la maladie du sommeil, les filarioses et les autres, qui sont transmis par les insectes peuvent devenir très importants. Donc, il faut faire en sorte que l'écologie ne soit pas fondamentalement modifiée pour ne pas favoriser l'éclosion d'insectes vecteurs de maladies. Mais vous savez aussi que quand, dans les conditions actuelles de notre climat, s'il y a une augmentation de la chaleur, il y aura une augmentation de l'humidité. Cette chaleur humide va favoriser l'éclosion d'un certain nombre de bactéries, de microbes, qui transmettent aussi des maladies.
Vous souhaitez réagir, donnez-vous aussi votre point de vue ou peut-être un complément d'information. Faites-le donc au 081 890 63 94. Mais nous vous rappelons, auditeurs de Radio Capi, qu'il ne faut pas habiter. Appelez-nous de façon à ce que nous, si vous n'avez pas suffisamment d'unités, nous puissions également vous rappeler pour enregistrer votre témoignage. Alors, sûrement, Arlette, qu'il y a une couche de la société qui est beaucoup plus concernée par ces problèmes.
Oui, effectivement, effectivement, l'impact de ces modifications sera disproportionné sur la population vulnérable, c'est-à-dire les très jeunes personnes, par exemple les enfants, l'école, les personnes âgées, les infirmes, les pauvres et aussi les groupes isolés. Il faut savoir qu'on retrouve notamment une grande vulnérabilité dans les petits états insulaires en développement et les régions montagneuses. Les mégapoles et les zones côtières des pays en développement n'en sont pas épargnées non plus.
Est-ce qu'il y a moyen de se prévenir contre ces maladies ou comment faire pour se protéger contre toutes ces maladies dues au changement climatique?
Oui, Nicole, toujours, selon les docteurs Mirkala, la vraie précaution à prendre, c'est de gérer l'humanité de manière convenable et aussi à prendre beaucoup d'eau en cas de canicule. Suivant.
Le réchauffement climatique est le meilleur exemple de la mauvaise gestion de la nature par l'homme. Et donc, je pense que l'écologie, c'est aussi un retour vers les bonnes valeurs qui permettent à ce que l'humanité soit gérée de manière convenable. Comme quelqu'un dirait que l'humanité soit gérée conformément à la volonté du Créateur. En cas de canicule, il faut beaucoup boire, il faut se protéger, par exemple pour les enfants, il faut les couvrir, les vieux, il faut les couvrir, il ne faut pas qu'ils soient exposés à la chaleur directe. Il faut aussi avoir suffisamment d'eau pour aller tremper de temps en temps de manière à ce qu'il ne chauffe pas trop.
Donc, nous retenons qu'il faut prendre beaucoup d'eau pendant cette période.
En cas de canicule, Nicole, parce qu'il faut dire qu'il va faire très chaud. Et avec l'humidité et la chaleur, il faut, entre les deux, prendre beaucoup d'eau et beaucoup se laver aussi.
Surtout les enfants, ils sont très vulnérables. Alors, ceux qui ont pressent déjà danger par rapport au réchauffement climatique, ce qui justifie finalement le choix de ce thème, protéger l'environnement, la santé face au changement climatique.
En fait, les dangers qu'entraîne le changement climatique pour la santé sont très divers et ils ont par nature une portée mondiale école. Ils vont du risque élevé d'événements climatiques extrêmes à des modifications dans la dynamique de maladies infectieuses. Les conditions climatiques influent sur un nombre de grandes maladies meurtrières et leur incidence. Comme leur extension seront vraiment ou vraisemblablement affectées par l'évolution des régimes climatiques.
Finalement, pour terminer, avant de donner la parole à nos invités, est-ce qu'on peut limiter ou même éviter certaines de ces maladies?
Jusque-là, il existe des mesures connues dans le domaine de la santé, comme dans les secteurs connexes pour réduire l'explosion ou l'exposition du changement climatique, ainsi que les effets de celui-ci. Par exemple, la lutte antivectorienne, la diminution de la pollution due au transport, donc la poussière et tout, et l'utilisation efficace des terres et la gestion de l'eau sont autant de mesures bien connues qui ont fait leur preuve et son utilité.
On va donner la parole à nos invités, Dr Germana, qui va bientôt nous rejoindre, ainsi que le climatologue Mouy Pita. Ils sont bien placés, tous les deux, pour nous donner d'autres détails sur ce thème. Nous rappelons encore une fois le thème de la Journée mondiale de la santé cette année, c'est « Protéger la santé face au changement climatique ». Vous souhaitez-vous aussi réagir, donner votre point de vue, poser des questions? Pourquoi ne pas nous appeler au 081-890-63-94. Allez, Mouy, merci beaucoup.
Merci, Nicole.
Au Capi, actif pour la paix.
Nous recevons, nous vous l'avons dit, le docteur Tchamala, Pascal Tchamala. Il est médecin directeur à la clinique Galima, il est également interniste. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour nous éclairer sur ce thème consacré justement à la Journée mondiale de la santé et protéger la santé face au changement climatique. Aujourd'hui, il y a bon nombre de gens qui s'interrogent. On aimerait savoir, pour commencer, quelles sont les différentes maladies qu'on peut constater compte tenu justement du changement climatique.
En fait, les conséquences des maladies sur le changement de climat, en fait, sont des conséquences dues à des changements provoqués par cet effet d'effet qui fait que la Terre se réchauffe. Et puisque la Terre se réchauffe, ce qui n'est pas la première fois d'ailleurs, parce que il y a quelques 100 000 ans, la Terre était plus glacée que maintenant. Donc, puisque la Terre se réchauffe, il y a tout un tas de phénomènes qui vont s'enclencher et qui vont avoir des conséquences sur les hommes, entre autres, et leur environnement. Notamment, il y aura trop de chaleur, notamment il y aura des inondations, et notamment il y aura des insolations. Bref, c'est le climat qui change, qui va avoir des conséquences sur le comportement humain, donc qui va apporter des maladies, des migrations, etc. Chez les hommes.
Oui, vous êtes interniste à Granima. Ces derniers temps, hein, vous avez eu à constater certaines maladies qui reviennent souvent. Lesquelles?
Les maladies qui viennent souvent chez nous, ce sont des maladies infectieuses. Hein. Ce n'est pas, on ne peut pas dire que nous sommes en train de subir maintenant une certaine conséquence de la montée du climat, enfin de la température sur la Terre. Mmh. Les maladies qui sont là sont des maladies que nous avons toujours eues. Mais seulement, on a constaté depuis plus ou moins un quart de siècle, depuis plus ou moins 25 ans, oui, un quart de siècle, que progressivement, la Terre est en train de se réchauffer. Et cette Terre qui est en train de réchauffer a des conséquences, par exemple, une diminution de la glace qui se trouve au pôle Nord, on a des inondations de toutes sortes, nous subissons aussi ce genre de choses par des pluies diluviennes que nous avons. Bref, c'est les maladies que nous allons avoir sont les conséquences de tous ces changements que nous connaissons à cause du réchauffement de la planète.
Oui, mais la population tout de même s'inquiète et s'interroge. Parce que bon, il faudrait que tout le monde soit préparé à l'avance, hein, de façon à se protéger contre ces maladies. Alors, il faut bien les connaître, ces maladies qui sont justement la conséquence du changement climatique.
Bien sûr que les patients doivent pouvoir s'inquiéter et être prévenus. Mais ce ne sont pas des choses, madame, qui arrivent comme ça du jour au lendemain. Ce que nous connaissons maintenant comme chaleur au niveau des Kinshasa, je ne pense pas, mais là, j'ai entendu que vous avez un climatologue qui va vous répondre. Mmh. Je ne pense pas que ça soit déjà les conséquences de ce réchauffement climatique dont on parle. Parce que on parle de réchauffement climatique. S'il n'y avait pas de réchauffement climatique, s'il n'y avait pas un effet de serre, aujourd'hui, on ne serait pas, la vie ne serait pas possible sous la Terre. C'est-à-dire que la Terre continuerait à se refroidir. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que l'effet de serre, les échanges entre l'énergie qui vient du soleil, enfin de l'espace, et l'énergie qui est dégagée par la Terre, il y a un déséquilibre qui est à 90% provoqué par les activités humaines, et c'est ça qui fait que la Terre est en train de se réchauffer. Mais comme je vous dis, c'est un phénomène qui a existé il y a des milliers d'années, à cette époque-ci, nous sommes en train de vivre sans doute un changement dû entre autres à notre comportement, et nous devons pour cela le prévenir. Je suis d'accord avec vous.
Oui, nous prévenir en faisant quoi justement?
Est-ce que les moments de... bon, c'est vrai que on dit que ce sont les grandes puissances qui font des grandes industries qui sont en train d'augmenter les effets de serre. Ça, c'est vrai. La situation, ou plutôt la maîtrise de cette situation, se trouve aussi à ce niveau-là. Mais il y a aussi, comme j'ai entendu un autre intervenant qui disait, nous devons respecter les règles de la nature pour éviter que par notre activité, parce que la responsabilité de l'homme est tout à fait engagée là-dedans, par notre activité, on puisse arriver à l'extinction de la race humaine.
Oui. Docteur Tchamela, nous avons des réactions dans ce studio. Nous avons une personne qui a réagi, mais malheureusement, elle n'a pas dit si c'était un homme ou une femme, qui nous demande ceci, hein, en fait, il s'adresse à vous. Il aimerait savoir si, du fait que, depuis quelque temps, on constate de plus en plus des cas de bronchopulmonaires, est-ce que c'est dû au changement climatique, surtout chez les enfants? Est-ce que cela est dû au changement climatique, docteur?
Mais c'est dû surtout à la pollution de notre environnement direct. Quand vous voyez les voitures qui se promènent dans la ville, ce sont des voitures qui fument sur toute l'avenue. Ça, ça a des conséquences sur les poumons. Ce n'est pas le changement climatique qui a provoqué cela. Quand vous voyez les gens qui s'accumulent autour du site là, sous Caligresse, où il y a plein de poussière, bon, je vous dis que ça, c'est pas les changements climatiques, c'est l'environnement qui n'est pas bien traité et qui a des conséquences sur la population.
Mais nous savons que dans bien des cas, les médecins nous le disent souvent, docteur Tchamela, que lorsqu'il fait trop chaud, qu'il fait trop froid, cela peut avoir des répercussions sur les personnes vulnérables, notamment les enfants. Hein.
Absolument, absolument. Lorsqu'il fait trop chaud, on perd beaucoup d'eau, et vous savez que notre corps est essentiellement fait d'eau. Alors, si vous transpirez trop et que vous ne remplacez pas cette eau par une boisson, etc., c'est-à-dire boire suffisamment d'eau, vous allez avoir des conséquences de déshydratation. Mmh. De la même façon, lorsque vous êtes dans une situation de froid excessif, le corps va fonctionner lentement, et ça a des conséquences sur notre vie, quoi. Donc, les extrêmes sont tout à fait nocifs pour l'être humain, ça, je suis d'accord avec vous.
Alors, tous les parents, toutes les personnes vulnérables, justement, les enfants, les personnes d'un certain âge, devraient prendre beaucoup d'eau pendant cette période de l'année?
Absolument, il faut qu'ils prennent beaucoup d'eau. Vous vous rappelez de cette histoire qui s'est passée en France dans des maisons des vieillards où il y a eu plein de morts parce que ces personnes ont été soumises à de l'insolation et qu'ils sont morts déshydratés. Donc, il est tout à fait indiqué en période de forte insolation, de forte transpiration, de pouvoir boire de l'eau, parce que c'est important de souligner ça, de l'eau pour pouvoir rétablir les équilibres nécessaires à la bonne au bon fonctionnement de la vie.
Docteur Tchamela, docteur Pascal Tchamela, nous rappelons que vous êtes médecin directeur à la clinique Ngalema, vous êtes également interniste. On sait tout de même que dans les corps humains, il y a des résistances naturelles. Et dans les cas d'espèces, parce que nous parlons de réchauffement climatique, y a-t-il des groupes sanguins qui seront plus résistants par rapport à d'autres?
Je n'ai pas connaissance de cette notion, mais je dirais simplement que nous, les Noirs, nous avons une peau noire, c'est parce que nous avons ce qu'on appelle de la mélanine. La mélanine protège contre l'insolation. Les gens qui n'en ont pas ont des problèmes de peau et de cancer. Mais je vous dis que le problème du réchauffement, c'est surtout, d'abord, c'est un problème naturel. Il faut que la Terre se réchauffe pour qu'on soit dans certaines conditions de chaleur. Mais c'est parce que ce réchauffement est en train de devenir de plus en plus important, déséquilibré, qu'il y a des phénomènes qui vont se passer, des inondations, des changements de climat, qui vont avoir des conséquences sur l'être humain. Mais en cas de déshydratation, à cause des transpirations profuses, etc., il est recommandé de pouvoir boire suffisamment d'eau pour éviter d'être déshydraté.
Oui, mais parce que selon nos sources, on n'est pas de médecins, mais il y a certaines personnes qui sont résistantes, ils ne connaissent pas des cas de déshydratation souvent.
Ça, j'aimerais bien savoir lesquels, parce que quel que soit l'être humain, lorsque il a une dépression importante d'eau, de son corps, il va subir les conséquences d'une déshydratation. Certaines réactions de son organisme, des réactions essentielles de sa vie, ne vont pas fonctionner, quel que soit son groupe. Alors, j'aimerais bien discuter de ces groupes-là, c'était bien de les connaître et d'essayer de faire en sorte qu'on en ait beaucoup plus dans la population pour éviter ce genre de choses.
Oui, docteur Tchamela, une question de curiosité, par rapport à cette situation, n'y a-t-il pas risque que la perturbation climatique occasionne un autre fléau médical à l'instar de SIDA, par exemple?
Ben, en fait, le réchauffement de la planète va provoquer tout un tas de perturbations qui nécessairement, effectivement, peuvent avoir des conséquences, pas nécessairement infectieuses, mais il y a d'autres conséquences qui peuvent survenir chez les hommes, c'est-à-dire des grandes populations vont devoir quitter des surfaces où il y a trop de chaleur pour migrer vers des espaces où il y a moins de chaleur. Conséquence, il va y avoir des
chutes
qui vont faire que ceux qui sont dans des climats favorables vont empêcher des autres de venir les envahir. Et ça va provoquer des guerres mondiales, et ainsi de suite, des choses comme ça, oui.
Au cas où il y a promiscuité, et si on ne gère pas bien cette promiscuité, ça risque de générer certaines maladies.
Oui, bien sûr, ça il faut pas attendre, on n'a pas attendu le réchauffement de la planète pour que ces conditions-là existent. Malheureusement, ces conditions existent depuis très longtemps dans des pays à faible revenu, et pour lutter contre ce genre de choses, c'est lutter contre des maladies qui peuvent se développer dans ces conditions-là.
Alors, pour certains médecins, parce que dans bien des cas, on dit que ce sont plutôt les plus jeunes, les enfants notamment, qui manifesteront certaines faiblesses par rapport à ce réchauffement, par rapport à cette perturbation climatique. Pour certains médecins, quel conseil donnez-vous aux responsables, aux parents, pendant cette période?
Mais les jeunes, les enfants, comme les vieillards, effectivement, ce sont des personnes dont le système immunitaire, donc notre système de défense naturelle, est non achevé chez les uns, vieillissant chez les autres, donc des personnes vulnérables. Alors, ces genres de personnes doivent être protégées. Les enfants doivent boire suffisamment d'eau, surtout les gros enfants, les parents ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être déshydratés parce qu'ils sont gros. Les parents doivent, et ça les pédiatres le disent, et les parents doivent absolument donner régulièrement de l'eau à ces personnes. De la même façon chez les vieillards, mais aussi chez des gens en activité, les activités que nous pratiquons nous amènent à perdre de l'eau de diverses façons, parce que nous transpirons, ainsi de suite, parce que nous ne vivons pas suffisamment. Il faut boire suffisamment pour pouvoir garder un état d'hydratation satisfaisant et qui permet au corps de bien fonctionner.
Oui, docteur Chabala, nous vous prions de rester un peu en ligne, parce que nous avons également en ligne Mbouyi Pita, climatologue. Monsieur Mbouyi, bonjour. Monsieur Mbouyi, bonjour, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Alors, vous êtes climatologue, si vous pouvez également nous éclairer autour de ce réchauffement climatique, en quoi il consistera-t-il?
Oui, merci beaucoup. Je voulais apporter une petite précision. Je suis expert en prévision climatique et mon apport par rapport à ces débats. Et aujourd'hui, les gens parlent de changement climatique. Le changement climatique, c'est une modification des paramètres climatiques. Et cette modification est forcément due à l'activité de l'homme. Et par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, vous allez voir qu'il y a diminution de précipitations et augmentation des chaleurs. Et d'ailleurs, ici, nous parlons aussi des canicules, c'est-à-dire il y a des hautes températures, hautes chaleurs. Et cela affecte notre corps par rapport à ce que le médecin, le docteur vient de le dire, je le confirme aussi, parce que nous sommes pris en étau. Il y a le phénomène qui nous affecte facilement, nous, les humains, et les animaux aussi sont affectés. C'est pour cette raison-là, vous allez voir aussi les déplacements massifs des animaux. Mais pour nous, les hommes, en quelque sorte, c'est comme si nous sommes pris en prison. Donc, pour nous déplacer, il faut de marches administratives pour nous déplacer. Et c'est pour cette raison-là, nous sommes directement affectés par les rayons solaires et d'autres paramètres liés au changement climatique.
Alors, M. Bouilly, quel est le seuil normal d'augmentation des chaleurs qui pourrait peut-être être à l'avantage de l'homme?
Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, les études ont démontré qu'il y a un changement. Et vous avez l'homme peut résister à un seuil de chaleur qui est minimisable par rapport aux chiffres. Alors, si je vous dirais aujourd'hui, par exemple, qu'il y a augmentation de 1 degré ou de moins 1 degré, c'est minimisable. Mais ce que je veux vous dire, je vous dis seulement qu'il y a un changement par rapport à la chaleur, à la température.
Alors, il y a un changement par rapport à la température. Ça risque de prendre combien de temps? Parce que vous êtes chargé de prévisions climatiques. Ça va commencer quand? Et puis, quand est-ce qu'on va sentir réellement ces perturbations climatiques?
Les perturbations sont déjà à l'actualité, parce que vous allez voir dans d'autres signes, on parle des inondations, on parle de beaucoup d'eau, et dans d'autres coins, on parle de diminution d'eau. Donc il y a la sécheresse qui est d'actualité aujourd'hui, il y a aussi les inondations. Alors vous dire que dans combien de temps où cela a déjà commencé, je vous dis seulement par rapport à la normale, je dis il y a déjà un changement. Et c'est là que ça continue, parce que vous savez qu'il y a eu des conférences sur le changement climatique, et il est démontré que il y a des pays qui ont refusé de signer les accords, pour vous dire que l'activité de l'homme est là parce que l'homme n'a pas besoin de vivre convenablement. Et vous dire que cela va diminuer, je le dis non, parce que ça va augmenter du jour au jour, parce que l'homme a besoin de vivre convenablement.
Donc on peut conclure que l'homme est pris dans un engrenage, dans une spirale interminable, donc ça ne peut pas s'arrêter aujourd'hui, ces réchauffements climatiques.
Non, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter.
Alors,
nous continuons à vivre des effets climatiques et qui seront nuisibles à notre santé.
Alors, M. Kenge, vous devez bien savoir, parce que ça c'est une réaction qui vient de Kinshasa, nous vivons les conséquences du réchauffement climatique. Et ceux qui vivent dans les déserts, quel est leur sort? Parce que vous avez parlé d'un seuil normal, standard, pour permettre à l'homme de résister par rapport à l'augmentation de la chaleur. Vous avez parlé de d'un degré. Mais le cas maintenant du désert, ça sera encore pire par rapport à nous qui vivons dans d'autres zones du continent.
Oui, monsieur. C'est ce que j'avais dit dans mon exposé. Je dis bien que le pays est pris en étau. Ceux qui sont du côté du désert, parce que nous sommes pris en étau par les déserts de Kalahari, et ceux qui vivent encore dans le désert, il y a encore une augmentation très sensible de la chaleur et diminution de la précipitation.
Alors, vous avez parlé de la diminution de précipitation. Est-ce que vous pouvez nous en faire une idée précise? Cette diminution, elle est de combien concrètement dans les cas de notre pays?
Merci beaucoup. Je crois que pour la saison mars, avril, mai, il est prévu d'un comportement déficitaire dans la partie ouest du pays et dans la partie sud. Donc, dans la partie nord, il y a des comportements un peu normal, c'est-à-dire nous aurons des précipitations qui ne vont pas nuire à l'homme. Disons, pour ce qui concerne la précipitation, pour la saison mars-avril-mai, dans la grande partie de la République démocratique du Congo, nous aurons des précipitations où la qualité des pluies sera déficitaire.
Oui, ben, donc, il aimerait savoir pourquoi cette différence par rapport aux différentes parties du pays. Vous avez dit ouest et sud, ça sera une partie déficitaire. Le nord, ça sera normal. Qu'est-ce qui justifie la base de cette différence?
Ok. Je dirais que les recherches locales, celles ne suffisent pas, et il y a aussi l'apport de certains centres mondiaux. Et le phénomène qui nous affecte, disons, sur le plan global, c'est le phénomène La Nina, et qui est le refroidissement de l'océan dans la région Pacifique, région El Niño. Et c'est là aussi, il faut ajouter le paramètre local. Et dans le paramètre local, nous, dans ce moment précis, il y a le courant marée froide du sud-est qui affecte la partie sud et la partie ouest est affectée par le courant marin de Benguela qui n'a pas vraiment un impact pour la période que je viens de vous parler.
Oui, ben, donc elles disent que nous sommes un pays scandaleusement riche, et surtout du côté flore et faune. Pourquoi aujourd'hui nous ressentons ce réchauffement à notre niveau?
Ok. Le climat n'a pas de frontières, et les catastrophes non plus n'ont pas de frontières. Et ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, il ne faut pas soustraire les effets ou le comportement mondiaux. C'est-à-dire que nous pouvons subir des conséquences de certains pays qui sont déjà avancés en destruction, par exemple. Et nous subissons les effets. Et cela n'exclut pas de tenir en compte aussi l'activité de l'homme sur la partie Congo, RDC.
Oui, est-ce qu'on peut, on peut aussi aujourd'hui dire que l'exploitation abondante de mines dans notre pays serait également à la base de ce réchauffement?
Comme le temps de certaines personnes. Oui,
il faut qu'il y ait, je sais qu'il y a, il y a des études qui sont en cours, et parce que vous avez une exploitation de mines, il faut tenir compte aussi de l'environnement, il faut tenir compte des paramètres météorologiques.
Oui, docteur, je parle de docteur, docteur Chamala est toujours là avec nous, mais nous avons également un climatologue, c'est Mbouipita. Mbouipita, en tant que climatologue, il y a des gens qui vous suivent à travers le pays, hein, et qui réagissent au 081-891-6394. Nous avons la réaction de Victor depuis Kananga qui dit « Est-ce que c'est la destruction de la couche d'ozone qui est à la base du réchauffement climatique ?» Qu'est-ce que vous répondiez à Victor ?
Parmi les facteurs qui entrent en compte, qui favorisent le changement climatique, il y a la destruction de la couche d'ozone.
Parmi les raisons.
Oui, parmi les facteurs.
Et les autres ? Et les autres facteurs ?
Oui, et les autres facteurs, comme je le disais, il y a l'activité de l'homme, il y a les gaz à effet de serre, et il y a les déboisements, par exemple, et il y a le déplacement massif de la population aussi, ça influe aussi le changement climatique.
Alors, est-ce qu'on peut craindre que dans les mois à venir, nous savons que chaque année, nous avons 3 mois de saison sèche, hein, oui, Pita, est-ce qu'on peut croire que cette année, la saison sèche sera une saison plutôt chaude, alors que normalement, elle est froide, hein, cette saison-là?
Ok, pour le moment, je ne veux pas parler des choses que je n'ai pas encore de résultats. Nous sommes en train de travailler sur la saison pour prescrire même toute la population de la RDC. Au moment opportun, je crois que le service, là où je suis agent, où je suis expert, vous mettra au courant de ce qui sera le comportement de la saison sèche.
Oui, plutôt, en tout cas, merci beaucoup hein, d'avoir été les nôtres. On pourra peut-être vous rappeler au courant de cette émission pour avoir d'autres détails, mais pour l'instant, on s'arrête là. On va donner à nouveau la parole au docteur Pascal Chamala, qui est toujours avec nous. Docteur, vous êtes toujours avec nous?
Oui, madame, je suis toujours avec vous.
Voilà, on va également clôturer avec vous, juste pour que vous puissiez répondre à la question de cette dame, hein, parce qu'il y a une dame qui nous a suivi et qui a réagi, et nous dit que les personnes vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans. Ces derniers temps, elle a constaté que dans les différentes pédiatries, il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de cas d'enfants malades, et la plupart sont des enfants encombrés. Qu'est-ce que les mamans doivent faire pour éviter que leurs enfants soient encombrés? Docteur Chamala, qu'est-ce que vous répondez à cette dame?
Mais je répondrai à madame que je ne sais pas si ces statistiques ont été augmentées plus que d'habitude, mais nous avons parmi les maladies de l'enfant des maladies des voies respiratoires. Les maladies de voies respiratoires sont nombreuses parce que les enfants, comme je vous ai dit tout à l'heure, ont un système immunitaire qui n'est pas encore tout à fait, qui n'a pas encore tout à fait achevé son développement. Et ces enfants, comme les personnes âgées, ne sont pas à l'abri de tout un tas de microbes, notamment des virus qui peuvent affecter leur état et conduire ainsi à des maladies. Et souvent, les enfants ont ces problèmes respiratoires dus à des virus, à des grippes, en fait. Mm. Comme vous savez, en Europe, par exemple, on sait prévoir que telle saison, il y a des grippes dont le virus est de telle nature. On vaccine alors ces personnes vulnérables pour leur éviter cela. Alors, dans l'immédiat, il faut que les mamans puissent faire en sorte qu'ils n'exposent pas les enfants dans un environnement pollué, par exemple.
Mais c'est impossible ici au Congo. C'est difficile, hein, dans la ville de Kinshasa, docteur Chamala.
Oui, c'est vraiment, c'est difficile. Mais c'est l'effort à faire. Il n'y a pas de médicaments qu'on puisse donner pour dire, bon voilà, ni des groupes sanguins, comme je viens d'entendre, qui sont beaucoup plus protégés que d'autres. C'est l'environnement. Nous devons faire un effort global pour qu'on puisse éviter, changer l'environnement, du moins à notre niveau, et faire en sorte que nos enfants ne tombent plus malades.
Oui. Docteur Chamala, en tout cas, on va s'arrêter là avec vous, hein, parce que nous avons plusieurs invités qui vont intervenir dans cette émission. Nous allons également donner la parole à des pédiatres, hein, qui ont souhaité réagir également sur cette question concernant l'environnement, protéger la santé face au changement climatique. Nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à nos questions et nous vous disons à la prochaine. Hein.
Ok, au revoir, madame.
Well, time. Two times. On passe comme un bois, on va dire que c'est
fois j'ai des nuits, je dis le bas de mes formes habituelles, en l'air sans réponse, tout ce qui me traduit, je sais souvenir, ouais, heureux comment, je le fais de mes affaires bas, avec mes gestes, avec mes bras, des bébés à qui j'ai voulu,
bien, 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 bien,
certainement cette chanson plaît à tous ceux qui nous suivent à travers le pays. On va revenir là-dessus, hein, avec une petite intervention du docteur Kamanga qui nous a donné, qui nous a en fait entraîné à couper cette chanson, mais on en reparlera. Docteur Kamanga, vous êtes pédiatre à la clinique Ngaliema, vous avez souhaité également intervenir sur cette question parce que aujourd'hui, les personnes les plus vulnérables sont surtout les enfants. Alors, est-ce que vous avez constaté depuis quelque temps de plus en plus des cas d'enfants malades dus au changement climatique?
Oui, madame, merci pour la question. Le changement climatique, comme le dit le mot changement, s'accompagne toujours de modifications au niveau du fonctionnement de l'organisme. Et quand on parle d'organisme, surtout l'organisme de l'enfant qui est très vulnérable à tous ces changements. Et donc, à chaque changement, le corps doit pouvoir s'adapter à ces nouvelles données climatiques, ce qui fait que l'enfant étant plus vulnérable, il est nécessairement très sensible par rapport à ça.
Et quels sont les problèmes que rencontrent généralement les enfants que vous consultez à la clinique Ngaliema?
Bon, par rapport au changement climatique, surtout lorsque la température est très très élevée, comme c'est le cas actuellement, le gros problème qui est à craindre chez les enfants, c'est la déshydratation. Vous savez qu'avec la chaleur, le corps se déshydrate par la transpiration et l'envie de boire suffisamment d'eau se crée. C'est par rapport à ça. Et donc, il y a ça. Il y a d'autre part des perturbations de la thermorégulation. Vous savez que dans notre cerveau, il y a un organe qui s'occupe de réguler la température du corps pour la maintenir au niveau normal, c'est-à-dire à 36 ou 37 degrés. Mais lorsque la température est très très élevée, comme ce fut le cas avec la canicule en Europe, c'est un peu le cas avec nous ici actuellement, il fait très chaud. Alors, il peut se faire que le niveau de la température générale de l'organisme puisse augmenter un petit peu. Alors là, on le rencontre également chez les enfants. Plus il est petit, plus il a des problèmes pour pouvoir maintenir son homéothermie. Et donc, ça, c'est des problèmes également. Donc, ce qui fait que on a des fausses fièvres et qui, lorsque on ne fait pas attention à cette particularité, on risque de traiter abusivement les enfants pour des fièvres, alors que c'est tout simplement un changement climatique en faveur d'une augmentation de la température.
Mmh. Voilà. Et nous savons que les enfants de moins de 5 ans, souvent, ne savent pas se moucher. Oui. Et cela entraîne souvent des encombrements, hein, lorsqu'il y a des petits rhumes. Et ça devient des graves maladies, parce que ça provoque finalement des infections. Docteur Chamala.
Oui, docteur Kamanga,
vous voulez excusez-moi.
Allez-y. Oui, justement, les pathologies respiratoires, surtout d'origine virale, sont le pain quotidien des consultations pédiatriques. Environ 75% de nos patients qui nous viennent en consultation ont avec eux une infection respiratoire, ce que nous appelons IRA, donc une infection respiratoire aiguë, qui peut intéresser un rhume, c'est-à-dire une rhinite, ça peut être une infection ORL, et plus bas encore, des infections bronchopulmonaires. Alors, effectivement, les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas suffisamment habiles pour pouvoir se moucher et dégager le contenu des narines, parce que ça, c'est ça le problème. Lorsqu'il y a un encombrement, faut pouvoir dégager ça.
Mmh.
Et donc, ça fait que chez eux, ces infections sont plus importantes et elles ont tendance à pouvoir se compliquer. Une des attitudes, justement, c'est lorsqu'il y a une rhinite comme ça, obstructive, chercher par tous les moyens de pouvoir dégager le nez, le rincer. Nous utilisons des solutions physiologiques pour ça. Donc, ça accélère la guérison.
Oui, mais des
chez
fois,
l'adulte, c'est plus facile. Oui. Donc, vous comprenez, chez l'enfant, ça devient un peu plus compliqué. Il faut que la maman s'y mette, que le médecin s'implique, ainsi de suite.
Et des fois, vous orientez certaines mamans vers la kiné. Hein, les enfants doivent suivre les séances de kiné pour pouvoir se dégager.
Ben oui, les séances de kiné sont indiquées, surtout lorsque il y a une difficulté respiratoire importante, liée surtout à une bronchoconstriction, comme on dit. Il y a des maladies pulmonaires qui s'accompagnent d'une bronchoconstriction, c'est-à-dire une diminution de la lumière des bronches qui fait que l'air ne passe pas correctement. Et ces enfants se mettent à respirer difficilement. Pour pouvoir les dégager, il faut recourir à la kiné. C'est un moyen plus ou moins ultime, si vous voulez, de la prise en charge en urgence de ce genre de pathologie.
Mais c'est un moyen que, bon, il faut dire que c'est un moyen que dans les pays sous-développés, on recourt souvent à cela, mais ailleurs dans le monde, est-ce que on recourt encore à la kiné pour dégager l'enfant?
Bien sûr, hein, bien sûr. Partout au monde, la kiné respiratoire avec le matériel de nébulisation sont d'actualité partout au monde. Hein. Ce n'est pas seulement dans les pays sous-développés.
Mm.
Et donc, c'est un moyen moderne et qui est d'actualité pour pouvoir dégager.
Nous avons la question d'une maman, Dr Kamanga, qui vous suit 5 sur 5, qui nous pose cette question. Elle nous dit qu'elle a eu un problème avec son enfant qui est tombé malade, qui faisait souvent des crises à répétition. Souvent, il avait des problèmes d'infection. On lui a prescrit des antibiotiques. Mais il y a toujours des rechutes. Elle est là, on vient de lui apprendre que son enfant a des problèmes de végétation. Qu'est-ce qu'il doit faire, docteur Kamanga?
Ah ben c'est très simple. Cette maman doit consulter un service d'ORL. Ça dépend de d'où elle est. Si elle est à Kinshasa, elle peut venir consulter nos spécialistes en ORL ou alors le pédiatre que nous sommes. Nous allons bien l'orienter. Mais dans un premier temps, comme je vous ai dit, si il est effectif que ce sont des problèmes de végétation adénoïdes, c'est-à-dire des excroissances qui naissent sur le trajet respiratoire au niveau supérieur, ben, ce qu'elle a à faire, d'abord, c'est suffisamment rincer les narines avec la solution physiologique. Ça se vend à 100 francs et donc dans les petites pharmacies, elle peut prendre ça, mettre suffisamment de gouttes, 5, 6 ou 7 gouttes dans chaque narine, quel que soit l'âge de l'enfant, et répéter ça plusieurs fois. Ça va déjà dépanner parce que ça va permettre de nettoyer les cavités nasales et décongestionner sans tant soit peu ces cavités nasales. Ensuite, elle doit consulter un service d'ORL qui va apprécier, parce que selon le degré de ses végétations, on peut soit se limiter à un traitement médical, soit aller jusqu'à la chirurgie. Donc cette mère, ce qu'elle a à faire, c'est d'abord ces deux-là, donc rincer correctement les narines de son enfant, consulter un service d'ORL, alors consulter le pédiatre le plus proche, il pourra apprécier le degré de ses végétations.
Voilà. Donc ça peut nécessiter une intervention chirurgicale?
Bien sûr, au stade ultime, on est amené à faire une intervention chirurgicale pour pouvoir enlever ces végétations-là, mais il y a des conditions. On ne peut pas le faire chez les enfants de moins de 3 ans, pour la simple et bonne raison qu'il y a possibilité de reprise de ces végétations. Au-delà de 3 ans, on peut être assuré qu'une fois ces végétations enlevées, l'enfant peut bien croître normalement.
Autre question qui nous arrive, docteur Kamanga, les mamans vous suivent, hein. Il y a une autre maman qui nous dit, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les médecins prescrivent de plus en plus les antibiotiques contre certaines infections? Et ce sont les antibiotiques qui coûtent très cher. Qu'est-ce que vous allez répondre à cette maman, docteur Kamanga?
Bon, je dirais à la maman que la prescription des antibiotiques est toujours motivée par la présence, l'observation d'une infection quelconque. Si le médecin prescrit l'antibiotique, ça, il a estimé que la pathologie qui est en face de lui est d'origine infectieuse, donc il faut pouvoir prescrire des antibiotiques. C'est vrai qu'il y a quelque part parfois des prescriptions qui n'en fallait pas, parce que dans les infections, on distingue les infections virales, donc celles qui sont dues au virus. Celles-là ne nécessitent pas des antibiotiques normalement. Et il y a des infections qui sont dues aux bactéries. bactéries, d'autres germes, microbes sensibles aux antibiotiques, ceux-là, ils sont passibles d'une antibiothérapie. Bon, ce qui fait que, bon, dans la mêlée, toutes les infections virales, bactériennes, parfois difficiles à distinguer au début, quand le prescripteur n'est pas très sûr de l'origine, parfois il peut s'amener à prescrire comme ça des antibiotiques de couverture, ce qui est un abus, ce qui ne fait pas.
Et trop d'antibiotiques, c'est pas bon pour un enfant. Hein.
Ben, les antibiotiques, c'est bon pour aider à lutter contre l'infection si les défenses de l'organisme de l'enfant ne sont pas arrivées à bout de celle-ci. Et bon, mais les antibiotiques, à ce moment, également, ça devient mauvais parce que, justement, il y a ce problème de résistance qui peut se créer. À force de prendre des antibiotiques, les germes s'habituent, ils deviennent insensibles et donc ça devient un peu difficile à traiter. Donc, il faut une prescription sélective des antibiotiques selon vraiment des indications. Et dans les meilleurs cas, il faut pouvoir isoler le germe par la culture. Si on suspecte une infection, il faut prélever le tissu ou le liquide de l'organe qui est affecté, en faire une culture pour isoler le
germe. Donc il faut faire un examen médical. Il faut nécessairement faire un examen médical.
Ça commence toujours par un examen médical. Mm. Le médecin examine, il suspecte, il demande le labo, donc la paraclinique. C'est ça qui va l'aider à déterminer avec plus ou moins de précision si infection il y a ou pas.
Parce que dans bien des cas, vous savez, la plupart des femmes qui nous suivent, des mamans, même pas leurs enfants à l'hôpital, hein, lorsqu'on fait des vox pop pour recueillir le point de vue des auditeurs, on constate que la plupart font la consultation à domicile. On sait que lorsqu'on envoie un petit rhume, on achète, je sais que le médicament, le Bactrim, on ne va pas à l'hôpital pour aller faire un examen médical, docteur Kamanga.
Ah oui, ça c'est, vous avez bien fait de poser la question, madame. C'est une attitude qu'il faut déconseiller formellement. L'automédication n'est pas bonne. Même si l'enfant présente les mêmes signes qu'il avait présenté l'autre fois quand la maman avait consulté le médecin et qu'il avait prescrit des médicaments, il est formellement déconseillé aux parents de pouvoir prendre les mêmes médicaments sans consultation médicale. L'automédication est dangereuse, il faut vraiment la déconseiller formellement. Lorsque l'enfant est malade, il vaut mieux consulter le médecin qui pourra vous aider à prescrire le médicament le plus attitré, quoi.
Mmh. Oui, mais il est bon aussi parce qu'il y a une autre personne qui nous suit, qui n'a pas donné son nom, qui nous a dit, bon, vous dites tout cela en français, mais c'est aussi bien de parler dans certaines langues nationales de façon à communiquer l'information à toute personne qui ne comprend pas le français.
Bon, ok, on commence par l'ingala, vous voulez.
Allez-y.
Je suis polyglotte, moi.
Allez-y, docteur.
Bon, je suis tout le baboyé. Les cambouyab antibiotiques, oyo, ma maman, tant que sous, moi, on a souga béli, à faire moi, pour ce que sous, moi, à rhume, à quelque chose que là, qui c'est dans la pharmacie, ming, barouka, bactrime, clamoxyde, banine, copé, ça, moi, là, et puis, ou bien, bactrime, sous, banyama, ainsi de suite. Que nous ressemblons à qui si on m'occupe en pharmacie, que vous pensez moi, les aliments B. Tout bien, on a français, automédication. Et c'est une délire, moi, on a ce qui est béli, maman, ton papa, ou à l'anda, ou à quoi va comme maïe, et pas à mon ganga, yende, à ebi, qui si ni, à vous, comme la namoana. Et d'ali bongo, à ta, ce qui m'a béli, n'aime m'occupe, ou à bela qui a liboso, comme me caté, qu'on pensez à qui si on va penser qui a liboso, il faut que notre argent à mon ganga, comme ça, y est à quoi apprécier. Est-ce que bah, qui se voit un peu ça qui dit bosso, il faut appeler ça jusqu'où ou bien il faut changer. Donc, tout à l'heure, il faut pas faire un abattement. Votre petit camarade, comme ils sont belles, qui se n'en a pas, il faut pas consulter mon ganga.
Et surtout ces derniers temps où on a toujours les mêmes problèmes qui reviennent, hein, dû au changement climatique. Ouais. On a des problèmes de rhume, des problèmes de toux. Vous avez beaucoup de ces cas. Hein,
ah oui, nous avons beaucoup de ces cas, comme je vous l'ai dit. Hein, c'est environ 75% de nos malades viennent pour ça. Donc, nous devons faire la part des choses pour pouvoir prescrire les bons médicaments. Ça, c'est très fréquent. Avec le changement climatique, c'est vraiment l'apanage, quoi.
Mais, docteur Kamanga, vous n'êtes pas encore en Ingala. Surtout dans la batterie, moi, je suis en Botama, je suis en Colima Mouké, un an, deux ou trois ans. Je suis en Bale, Nani, à Kouiko Zalana, moi, pour Pikiliki, pour être les Kambouar réchauffement climatique et dérangé, quand ça n'a été.
Ah, bon, il faut te dire que plus moi, je suis en Cola, plus quantité proportionnel, il y a mai na katan zot na e, ça veut dire, moi, na bota mesika, ce qui va mettre quantité à maille dans l'autre, on a les mingi collectés, il y a plus de 60, 70, même 80% sur des allées prématurées. Ce qui fait que, ce qui est changement climatique, les allées, moi, les allées, ma casse, si moi, non, la botanistique, on doit être très sensible, na, autre bengi de désertation, donc maille aussi là dans l'autre. Donc, ce qui fait que moi, non, dans la botanistique, non, moi, non, dans la 3 ans, oh, les allées, la danger, ma casse, les allées, moi, non, oh, la botanistique.
Donc, il faut pas protéger ma casse?
Il faut pas protéger ma casse. Il faut pas protéger ma casse. Bon, le corps ailleurs, par exemple, moi, la botanique, il faut maman ailleurs, ça ailleurs, mais tu sais, ma
belle
tout le temps.
Oui, oui docteur, bah, tout le monde se balobie, par rapport, il y a groupe sanguin, autre, peut-être, tout le monde se botamaka, naturellement, on a immunité, hein. Est-ce que, groupe sanguin, groupe peut jouer rôle par rapport à ban, dans la carte, il y a réchauffement climatique,
oui, groupe sanguin, c'est là que jouer rôle, mon côté, dans la carte, il y a changement climatique. Et puis, groupe sanguin à immunité, ça lit deux choses tout à fait différentes. Il faut pas confondre un autre groupe sanguin, ça lit, oh yo, mais qui est dans la ligne de Salamaki, ça lit déterminé, n'a pas antigène particulier. Tandis que, immunité, ça lit, ma défense à l'organisme, il faut que l'immunité. Nous avons un peu de temps, mais l'immunité, nous avons un peu de temps, 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 nous avons vraiment un peu de
temps. Donc,
en résumé, le groupe sanguin, là, comme il y a le climat, il n'y a pas de rapport.
Il n'y a pas de rapport. Docteur Kamanga, on va rester en Lingala. Dans bien des cas, on conseille aux mamans de ne pas donner à boire à leurs enfants. Donc, vite à ma maman que, on a vraiment maïté ce qui va botanistique jusqu'à 6 mois. Alors, aujourd'hui, vous conseillez aux mamans de donner de l'eau aux enfants pendant cette période de changement climatique, mais en même temps, on demande aux mamans de ne pas donner aux nouveau-nés de l'eau avant 6 mois. Comment est-ce que vous allez réagir face à cette préoccupation, docteur?
C'est-à-dire que Mibeko va pêcher, vous voulez français ou lingala, madame?
Les deux.
Bon, d'abord en français, ce qui a été conseiller, c'est une recommandation de l'OMS. Les enfants qui naissent de 0 à 6 mois ont un seul aliment, c'est le lait maternel. C'est le lait maternel qui convient pour tous leurs besoins, y compris les besoins en eau. Tenez que dans le lait maternel, 80% de sa composition, c'est de l'eau. Ce qui fait que l'enfant qui prend correctement le lait maternel est complètement couvert par rapport à ses besoins en eau. Et bien sûr, à côté, il y a les protéines, il y a les lipides, il y a les anticorps, les sels minéraux qui sont dans ce lait. Donc, c'est un aliment tout à fait complet. Si la maman donne le lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois, l'enfant ne va pas souffrir de ce...
Quand bien même,
il y a changement climatique, il y a du soleil. Le soleil est valable même au Sahel, où il fait 45 degrés par jour. Donc, le Dieu a pourvu l'organisme maternel de pouvoir créer le lait suffisant pour le bébé, et ça s'adapte en fonction de l'âge du bébé. Au fur et à mesure qu'il grandit, la composition de lait également change, et c'est ça. Ça reste de mise. Mais il y a des exceptions. Si pour une maladie ou une autre, cet enfant arrivait quand même à se déshydrater, ça veut dire à perdre une bonne quantité de son eau, ben, le lait maternel à ce moment-là ne suffit pas. Il faut une intervention médicale. Ça peut y aller. On peut y aller par soit des perfusions, donc de l'eau qu'on va donner par les veines, ben, c'est une eau
spéciale,
ou alors par la solution spécialisée.
S'il vous plaît, restez en ligne, hein, parce qu'on va vous récupérer juste après le flash info. Hein. Donc restez avec nous, parce qu'il y a toujours des questions qui continuent à arriver. Il y en a beaucoup, et une question pertinente qui nous vient de Mbandaka. Quels sont les symptômes pour découvrir la bronchite pulmonaire? Ça, c'est Gabriel Mambote qui vous pose la question. Vous allez y répondre dans un instant, juste après le flash info. Donc, s'il vous plaît, ne coupez pas. Et nous rappelons nos auditeurs qui peuvent toujours intervenir au 081 890 63 94 ou nous écrire à l'adresse email action@radiocapi.net. Il est exactement 10h à Kinshasa, 11h à l'est du pays. La chanson Babel Pongo Massimango.
6 personnes ont été enlevées et emportées dans la forêt de Kaouzibiega au Sud-Kivu la nuit de dimanche à lundi dernier par des présumés ex-combattants ou tourandais. Ça s'est passé dans le groupement de Chirungamudaka, territoire de Kabare. Selon le chef de ce groupement qui a livré l'information, les assaillants ont d'abord tiré plusieurs coups de feu pour intimider les habitants. Ensuite, une dizaine d'habitations ont été vidées de leurs biens de valeur. Les 5 hommes et une femme amenés étaient obligés de transporter le butin. L'administrateur du territoire de Kabare annonce que des éléments des FRDC sont à la poursuite des agresseurs. Toujours au Sud-Kivu, une personne a été gravement blessée et plusieurs biens emportés lors d'une attaque attribuée à des hommes armés. Cela s'est passé la nuit dernière dans le village de Tichy, à Nyangezi, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Bukavu. Selon le chef de cité de Nyangezi, les assaillants estimés à une dizaine ont aussi tiré plusieurs coups de feu en l'air pour dissuader les voisins venus à la rescousse. La victime, touchée au ventre et au bras gauche, a été acheminée à Bukavu pour des soins appropriés. La même source dit déplorer la non-intervention des éléments FRDC positionnés pourtant en non loin du village attaqué. À Lubumbashi, le corps sans vie d'un jeune homme d'environ 30 ans a été retrouvé ce matin sur l'avenue de la Libération au quartier Mounois dans la commune annexe. Ce corps porte plusieurs traces de blessures. Interrogés, les habitants de ce quartier disent ne pas connaître les circonstances de la mort. Dans l'enseignement, signalant les débuts ce mardi de la grève des enseignants à Chikapa. D'après le syndicat, selon les syndicats des enseignants, les fonctionnaires de l'État réclament les salaires au mois de février et de mars. Ils dénoncent également des irrégularités sur les listings de paie. Entre-temps, à Kananga, la grève se durcit. Cela fait plus de 3 semaines que les enseignants ont suspendu leur travail pour les mêmes raisons évoquées par leurs collègues de Chikapa.
D'autres détails avec Babel Pongo tout à l'heure à 11h, heure de Kinshasa, 12h, heure de l'Est. Nous avions en ligne le docteur Kamanga, pédiatre à la clinique Ngalima. Docteur Kamanga, vous êtes toujours avec nous?
Oui, bien sûr, madame.
Alors, vous êtes en train de nous expliquer les bienfaits du lait maternel pour ces mamans, ma maman, ou bah, Pessarama, elle a un gros biberon.
Oui.
Est-ce que elles peuvent donner de l'eau tout de même à leur enfant s'il est âgé de moins de 6 mois?
Bon, là on entre en ligne là, hein.
Oui.
Faut dire la même chose.
Oui.
Bon, Makamba Biberon, OMS, Petit Mibeko, on a éteint l'alimentation à moins à partir de 0, si sans motoba. OMS, l'Organisation Mondiale, à l'OBI, ben là, on va s'engager dans mes là, ma belle et ma maman. Il y a des aliments et des bosseaux, et c'est un délit pour la santé, pour la croissance harmonieuse, pour la cause à la penzo tout au long de nous. Ma belle et ma maman, elles allient, n'a bilogo n'y a pas de délit. Maï, elles allient à Kokoka, vraiment.
Merci, maman.
Et moi, elles allient ma casse, surtout moi, la zone, ma belle et ma maman, y est à vous à la. N'a besoin de maille, mon souci. Il faut aller voir ma belle ou en aille.
Mais ceux qui m'ont mis à la belle et coquité.
Ceux qui m'ont mis à la belle et coquité, et ou bien, ceux qui m'ont mis à la maladie, son goloto, pas qu'à sa oreille, c'est un délit que, ah, mais ça m'a belle été. Voilà, c'est quoi, yo, il faut attendre la munganga. Munganga, comme elle est, ma belle ou à copo. Ma belle ou à copo, on est allé ma belle et en gombe. Et en gombe, bah, ça, il y a un gombe, et coca, n'a moins mouqué, n'a ma belle et à ma maman. Mais jamais, et coca, et coca. Donc, situation, on a un cas particulier, munganga, a comme la moine, ma belle, et c'est une âge naïe, ma belle et à copo, c'est à vous la dire sa maman, n'est à vous ça, ma belle et à vous.
Alors, pour terminer, docteur Kamanga, vous allez répondre à la question de Gabriel Mamboté depuis Mandaka.
Ah oui, c'est ça.
Oui, qui dit quels sont les symptômes pour découvrir la bronchite pulmonaire. Vous avez dit que pendant cette période de l'année, où il y a beaucoup de changements climatiques, il y a beaucoup de changements de température, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les symptômes de la bronchite pulmonaire?
Bon, je voudrais d'abord dire à l'auditeur que bronchite pulmonaire, c'est un peu une pathologie bronchite, les allées à bronchite, donc les allées à l'inflammation, il y a la bronche. Bronche, les allées à l'anzela, on peut faire le cas, si on a fait le poumon pour écouter la maquille. Ce qui, nous allons, ou bien, mais si ça, on a eu inflammation, mon toit de bronchite. Alors, symptômes, là, nous allons, il y a les bosses, mon toit, ce qui a commis au cosola. Donc, on a eu les signes que moi, mon toit, on a eu ça, la bronchite. Nous souffrons beaucoup de la fièvre. Fièvre, on a eu les cas de thème, fièvre.
Mutoroko na bronchite, mais perdant la fièvre T. Moussoutou perdant la bronchite, perdant la fièvre. Si quoi un dé, ce côté là, au niveau de la bronchite, ouana, est-ce que, est-ce que, est-ce que la bronchite ou bien, et qu'il y a un tissu moussoutou, parce que, n'est-ce que, bien, moko, voyez, bien, à quatre, il y a un poumon, les alliés, quand même, si ça, on a été, les alliés, pé, la bilo moussoutou, le voilà, bah, l'alvéol, bah, mais si ça, il y a maquilla, pé, dans la quatre, donc, nous, on est là, on constitue tissu pulmonaire. Chaque partie, il y a, tissu pulmonaire, on a écouté que l'inflammation à ce moment-là, et qu'on changeait comme mot, tant que c'est comme la pneumonie, ou bien bronchopneumonie, ou bien maïs, ou bien tombé dans le cas, qui vont pleurer. Donc, les amas, quand vous avez des pour la bronchite, ce qui va dire bronchite, il y a un mot, mingi, kosu, on peut faire ça, quand.
Et la fièvre.
Fièvre.